belle fin de journée avec Arabelle, il est 19h. Merci Benoît Dumont, prochain rendez-vous avec l'info à 20h.
19h-20h, place publique sur Arabelle.
Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas de Wallens avec vous, heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Place Publique. Chaque mercredi entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales. La NVA propose désormais des listes en Wallonie, mais depuis 2019, plus personne ne défend les francophones de la périphérie bruxelloise. Pourtant, 150 000 francophones vivants vivent en Brabant flamand. Quels sont les enjeux pour les francophones de la périphérie bruxelloise? C'est la question de Place Publique ce soir. Je lis vos SMS au 0488 106 800, 0488 106 800, et je reçois vos appels au 078 077 088 078 077 088. Sont avec nous Place Publique ce soir Nicole Roland, conseillère communale et maire à Rhodes-Saint-Genèse, numéro 2 sur la liste Union des francophones en Brabant flamand pour le Parlement flamand. Bonjour.
Bonjour.
Maxime Timmerman, vice-président des filles, conseiller communal des filles à Berceul, numéro 1 sur la liste Union des francophones en Brabant flamand. Bonjour.
Bonjour.
Alexandre Delcommune, délégué les engagés pour la périphérie bruxelloise, numéro 4 sur la liste Union des francophones en Brabant flamand. Bonjour.
Bonjour.
Et Roberto Galluccio, président du PS pour la périphérie bruxelloise, 6e suppléant sur la liste Union des francophones en Brabant flamand. Bonsoir.
Bonsoir.
Il n'y a pas de candidats écolo et PTB en région flamande à ces élections. Soyez les bienvenus. Place Publique commence maintenant.
Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabelle.
Différents visages, différents noms, différentes voix que vous découvrez peut-être ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse mieux connaissance avec celles et ceux qui sont avec nous ce soir. Nicole Roland, en quelques secondes, qui êtes-vous ?
Voilà, donc j'ai 64 ans, je fais donc partie de la génération des baby-boomers, je suis conseiller communal à Rhodes, psychologue de formation, je travaille à l'ONE, donc dans le secteur de la petite enfance, et je suis vraiment fière que mon parti... Le MR m'a demandé de soutenir la liste UF, qui est une liste vraiment multigénérationnelle.
Maxime Timmerman, Défi.
Bonjour, donc je m'appelle Maxime Timmerman, je suis donc vice-président de Défi. J'ai 24 ans, je suis également étudiant en bio-ingénierie, conseil communal à Berceul, et à nouveau également fier de notre liste multigénérationnelle, et surtout très fier de pouvoir porter cette liste en tant que tête de liste.
Alexandre Delcommune, les engagés.
Oui, bonjour, je suis l'ancien trésorier des jeunes CDH pour la région bruxelloise, j'ai 42 ans, je suis comptable et écrivain à mes heures, je suis suppléant de l'Assemblée politique pour les engagés, également délégué de la périphérie bruxelloise pour les centristes, et je suis quatrième effectif sur cette liste UF pour la région flamande.
Roberto Galluccio, PS.
Oui, donc j'ai une carrière d'enseignant. J'ai terminé ma carrière d'ailleurs comme responsable d'un réseau d'enseignement, celui des communes et provinces, communément appelé le CP11. Et actuellement, je m'occupe toujours d'activités liées à l'enseignement et principalement tout ce qui concerne le financement des bâtiments publics en communauté française. À côté de cela, je suis évidemment très heureux d'avoir pu collaborer à la mise en place d'une liste Union des francophones en périphérie, dans la mesure où c'est un combat, je pense, qui n'est absolument pas un combat d'arrière-garde.
Vous travaillez à Bruxelles tous les jours, mais vous habitez peut-être en Brabant flamand et vous écoutez Arabelle. Je lis vos SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Maxime Timmerman, Défi, depuis 2019, il n'y a plus de représentants des francophones au Parlement flamand. Quelle en est la raison ?
Les principales raisons justement en fait de ce manque de notre parlementaire au Parlement flamand a été dupe hein, par un message qui a été porté sur la liste, nous avons la liste écolo qui était avec Jeroen pour la liste parlementaire pour le Parlement flamand, qui a fait campagne justement en disant qu'il y avait également un francophone sur leur liste. Ce qui a été abordé, c'est que du coup durant la campagne, de pouvoir voter pour leur liste également, comme ça nous allons pouvoir avoir deux représentants francophones au Parlement flamand. Malheureusement, on n'en a ni l'un ni l'autre. Autre problème également, c'était des problèmes dans la campagne où il y a eu un sabotage, où on voit que certains trombinoscopes ont été retrouvés dans des poubelles ou des communes importantes, comme des communes de la périphérie bruxelloise, n'ont pas été mises au courant justement de notre liste. Pourtant, des panneaux électoraux ont été mis en place. Mais la communication principale, qui était par notre Luminoscope et par le contact, n'a pas été faite justement.
Alors j'aimerais vous entendre les uns les autres quelques secondes chacun. Depuis 5 ans, donc, les francophones ont vu leurs droits se dégrader en périphérie bruxelloise, Nicole Roland ?
Je n'irai pas jusque-là. Nous devons effectivement rester très vigilants et en tout cas, nous devons absolument respecter l'état de droit. Il y a donc eu, certes, des attaques de la région flamande au niveau des droits des francophones, mais il y a quand même un arrêt du Conseil d'État qui permet vraiment à chaque citoyen de pouvoir correspondre en français avec l'administration. Et donc le Conseil d'État a confirmé qu'il n'était plus nécessaire de faire une demande individuelle chaque fois qu'on avait besoin d'un document, mais que tous les 4 ans, il suffisait de se déclarer. Et donc notre combat, c'est aussi de veiller à ce qu'en tout cas dans les communes à facilité, ces droits soient bien maintenus.
Alexandre Delcommune.
Oui, je pense que les facilités ne sont pas tout à fait respectées dans la pratique. J'ai pu notamment interroger plusieurs électeurs d'origine européenne qui sont francophones, qui ne votent toujours pas aux élections communales et provinciales. Pourquoi ? Parce qu'ils ou elles ne sont pas inscrits sur les listes. Quand ils ou elles demandent d'être inscrits sur les listes, eh bien on leur envoie des documents en irlandais, une langue qu'ils ne comprennent pas. Donc je ne partage pas tout à fait le point de vue, si vous voulez, de tout va bien au pays des communes à facilité dans le cas de l'application de ces mêmes facilités. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Roberto Galluccio, vous constatez que les francophones de la périphérie sont en danger ?
Mais je vais prendre un seul exemple. Ce sont les 8 écoles francophones des communes à facilité, avec évidemment un ministre NVA, donc nationaliste, qui n'a qu'une seule ambition, c'est de voir ce furoncle sur le visage flamand disparaître. Et donc, il essaye de restreindre progressivement le fonctionnement de ces établissements. Je vais prendre quelques exemples. Déjà, il essaye d'incriminer les francophones de périphérie en disant que ces établissements sont financés par la communauté française à raison de 13 millions d'euros, ce qui est totalement faux. C'est de l'argent fédéral qui permet de financer ces établissements scolaires. Ensuite, on a travaillé sur l'inspection, en considérant que, puisque ces écoles étaient sur le territoire de flamand, il fallait que l'inspection soit flamande également. Et là, on a, avec l'accord du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a maintenu le côté pédagogique rattaché à la communauté française, ce qui permet évidemment de laisser le lien des élèves au niveau de la communauté française. Et on peut comme ça multiplier les exemples. Il a pris comme une vexation personnelle les modifications qui ont été apportées au rythme scolaire, jusqu'à refuser même de discuter avec la ministre de l'Enseignement qui avait fixé ce genre de mesures dans le pacte pour un enseignement d'excellence, en considérant que si la communauté flamande baissait pavillon par rapport à ça, quelque part, ça mettait en difficulté la communauté flamande. C'est vraiment une vision qu'évidemment on ne peut pas accepter.
Maxime Timmermans, je vois que vous souhaitez réagir.
Justement, j'approuve également ce que dit Roberto. Un autre exemple qui est également donné, c'est que nous avons du coup un échelon de l'enseignement francophone à Rosaine-Genèse, Nicolas Kaczynski, qui a voulu organiser des cours de français pendant l'été. Ben Wes les a refusés en se justifiant que de toute façon les communes à facilité sont vouées à disparaître. C'est comme ça qu'il s'est justifié, hein, c'est tel quel dans l'article.
Donc on peut organiser des cours d'espagnol, d'italien pendant l'été, mais pas des cours de français?
Bon, en tout cas, on peut y créer des cours de mathématiques, des cours de néerlandais, des cours de français, on ne peut pas pourtant. C'est une des matières qui est donnée à partir de la 3e secondaire, je le sais moi-même parce que j'étais étudiant dans une école néerlandophone, dans une commune à facilité. Mais non, ces cours-là ne sont pas autorisés. Donc justement, je vais dans le sens de ce que dit Roberto. Et également, sur la question des rythmes scolaires, là maintenant, il y a d'autres partis flamands qui souhaitent justement aborder la question de changement de rythme, ce qui apporte en fait beaucoup de complications dans le rythme des familles. Et donc justement, on sait que la question des rythmes scolaires vont être un point du prochain gouvernement et UF doit être présent au Parlement flamand pour justement appuyer dans le sens de changement de ce rythme.
Le ton est donné, bienvenue dans cette émission consacrée aux enjeux pour les francophones de la périphérie bruxelloise. Un avis, une question, une réaction, je lis vos SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. On se retrouve dans un petit instant, juste juste après Doriadé.
Jusqu'à 20h, place publique sur Arabelle.
Quels sont les enjeux pour les francophones de la périphérie bruxelloise? C'est la question de place publique ce soir. Maxime Timmerman, Défi. Pourquoi est-il important d'avoir en Brabant-Flamand une liste qui regroupe les grands partis francophones et des indépendants pour continuer à défendre les droits des francophones?
Ne serait-ce que par un esprit démocrate et de vouloir justement de faire respecter la démocratie, il est important de continuer à faire valoir les droits des francophones. C'est une question de démocratie, tout simplement, de pouvoir justement participer à ces élections-là, de pouvoir rappeler les intérêts des personnes habitant la périphérie bruxelloise et de continuer, justement, si on appelle la défense des droits des francophones, c'est parce que de l'autre côté, il y a des attaques. Et comme je l'ai dit précédemment, Ben Ouez, justement, lui dit que les communes facilitées sont vouées à disparaître. Je laisserai mes collègues des communes facilitées en parler, parce que moi, j'habite dans une commune sans facilité. Mais habitant d'une commune sans facilité, je sens également à nouveau cette tension communautaire revenir, même si avant elle se sentait beaucoup plus entre les politiques depuis quelques années. On ressent dans le quotidien en fait justement cette tension qui revient. Et donc c'est pour ça que justement de pouvoir reparler de la démocratie, reparler des droits des francophones, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir en discuter et pour justement de continuer en tout cas à amener le débat.
Alexandre Delcommune, les engagés, les droits des francophones sont menacés en Brabant-Flamand?
Oui, tout à fait. Les droits des francophones sont tout à fait menacés en Brabant-Flamand. Il y a tout à fait moyen, avec une majorité de 2/3 des voix à la Chambre, de supprimer les facilités, donc avec une alliance NVA-Vlaams-Belinck. Moi, je partirais tout simplement d'un principe simple. À partir du moment où vous payez vos taxes dans une région et que vous apprenez ou que vous connaissez la langue de la région, je pense qu'il est important d'avoir le droit de vote. Il y a un principe de base en démocratie, c'est le principe des premiers révolutionnaires américains, c'est « no taxation without representation ». Donc à partir du moment où vous payez vos taxes, vous devez avoir le droit de vote. Mais de fait, les droits des francophones sont techniquement menacés en Brabant-Flamand.
Et des francophones qui nous écoutent et qui habitent le Brabant-Flamand l'ignorent peut-être, Nicole Roland?
Effectivement, moi je pense qu'on a quand même avancé avec la 6e réforme de l'État, en tout cas dans les communes à facilité, mais n'oublions pas qu'une 7e réforme de l'État est possible également et que chaque fois du côté flamand, il y a cette tache d'huile francophone qui fait très peur autour de Bruxelles. D'un autre côté, je suis personnellement très attachée à la communauté urbaine, au Grand Bruxelles, à la communauté métropolitaine. Et donc, c'est aussi très important, effectivement, que ces 150 000 francophones qui vivent en région flamande puissent s'épanouir en bénéficiant des services adéquats dans une région qui est très belle et que les Bruxellois rejoignent massivement pour l'instant.
L'une de vos paroles m'interpelle particulièrement. Pourquoi est-ce que ces 150 000 francophones de la périphérie font peur?
Ça, c'est à nos collègues flamands qu'il faudrait le demander.
Maxime Timmerman.
J'ai fait mes primaires en néerlandais, j'ai fait ma maternelle en néerlandais, j'ai fait une partie de mon cursus universitaire à Gand également, donc je suis bilingue, je suis toujours en contact avec une partie de mes amis néerlandophones et qui m'expliquent en fait, justement, quand j'ai l'occasion de pouvoir parler avec leurs parents, en fait, il y a une réelle peur, justement, de l'effacement de leur culture. Je pense qu'il y a eu, durant tout un temps, on savait que durant le Moyen-Âge, la bourgeoisie était francophone, la bourgeoisie, même flamande, a toujours été francophone, et du coup, il y a une partie de la classe populaire qui voyait leur culture disparaître, et quand j'ai été visiter le Parlement flamand avec des filles jeunes, on nous a directement expliqué que, en fait, la culture est importante. On voit vraiment que, chez les flamands, la culture est quelque chose d'importante. Je l'ai vécu également, parce que j'ai eu un beau-père qui était néerlandophone, qui est flamand, toute sa famille est flamande, donc j'ai eu cette joie de pouvoir rencontrer cette culture aussi. Il y a une richesse dans leur culture, mais eux ont peur qu'avec les francophones qui arrivent, que leur culture s'efface à nouveau. Et donc c'est surtout par une opposition pouvoir maintenir leur culture. Mais ce qu'on voit également avec, par exemple, le Vlaams Canon, où ils veulent refaire un peu donc, des livres, où ils remettent l'histoire de la Flandre en avant, et ils veulent l'instaurer dans l'enseignement. Et donc cette crainte, je pense, vient plutôt de là.
Nicole Roland.
Oui, je dirais que ce qui est très important, c'est le vivre ensemble. La Belgique est un État très original, on a différentes communautés et je pense, en tout cas dans ma commune à Rhodes-Saint-Genès, qu'on a pu prouver actuellement que l'entente est bonne entre les deux communautés. Et c'est un modèle qu'on doit pouvoir défendre. Le fait aussi que notre liste représente tous les partis francophones, quand on voit la montée des extrêmes pour les élections qui s'annoncent, c'est peut-être quand même important aussi que les partis traditionnels puissent trouver des consensus ensemble.
Roberto Galluccio, oui. PS.
En fait, en Flandre, on est véritablement allergique à tout ce qui est bilingue. Et comme le soulignait Maxime, effectivement, la culture est vraiment l'élément dominant dans la vie courante en Flandre, jusqu'à avoir intégré région et communauté, en considérant que c'est la communauté qui prime sur la région. Ce qui est évidemment tout à fait à l'encontre de ce que l'on vit du côté francophone, où c'est la région, le fait régional, avec la partie économique qui constitue l'élément moteur. Et donc, ça va tellement loin que, par exemple, le ministre Ben Waits a refusé que les hautes écoles du côté flamand, mais également les universités, aient un enseignement bilingue. On sait très bien que la concurrence la plus forte en Flandre, c'est évidemment les universités, les hautes écoles des Pays-Bas, qui appliquent en fait des cours à la fois en néerlandais et en anglais, avec une prépondérance pour l'anglais, puisqu'il se situe évidemment dans un environnement international. Eh bien, alors qu'il y avait une volonté du côté flamand de vouloir créer cette approche dans les hautes écoles et les universités, eh bien Ben Waits s'y est opposé véritablement en considérant que le néerlandais devait être le moteur véritablement de l'enseignement et de la vie courante. C'est tellement vrai qu'il est impossible en Flandre et même à Bruxelles du côté des établissements flamands d'avoir de l'enseignement en immersion. Alors que l'on pourrait, là, gagner énormément dans l'apprentissage du néerlandais, eh bien, on préfère que des francophones aillent s'inscrire dans des écoles néerlandophones, comme ça, au niveau des montants financiers attribués par l'État, soient diminués pour la communauté française, mais on refuse absolument de pouvoir élargir l'enseignement par quelque chose de bilingue.
Place publique revient dans une poignée de secondes. Restez avec nous. À tout de suite.
19h-20h, place publique sur Arabelle.
Quels sont les enjeux pour les francophones qui habitent la périphérie bruxelloise à ces élections du 9 juin? On en parle ce soir avec vous et avec Nicole Roland, MR, Maxime Timmerman, Défi, Alexandre Delcommune, Les Engagés, Roberto Galluccio, PS. Je rappelle qu'il n'y a pas de candidat écolo ou PTB à la région flamande pour ces élections. Vous écoutez Place Publique. L'Union des francophones défend entre autres l'accès des francophones sans contrainte ni discrimination linguistique, entre autres aux mesures de soutien aux demandeurs d'emploi. Alexandre Delcommune, Les Engagés, ça veut dire qu'aujourd'hui des francophones de la périphérie bruxelloise ont moins de soutien pour retrouver un job?
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. J'ai eu également l'occasion...
Non, c'était juste une question, oui, pas non. Un point de vue. Hein.
Non, je veux dire, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une quelconque différence de traitement au niveau du VDAB, donc de l'Agence pour l'emploi de la région flamande, entre les francophones, les Européens, ou bien les non-Européens, ou les natifs flamands. Je pense que l'objectif global de la région flamande est de maintenir le taux de chômage le plus bas pour une région européenne. Et je n'ai en tout cas pas connu ou pas eu connaissance de discrimination de la part des services flamands, de la région flamande, du VDAB, concernant moins de droits ou plus de droits pour les francophones, à partir du moment où vous connaissez parfaitement le flamand et vous vous adressez à eux donc dans leur langue. Donc voilà.
Maxime Timmerman, Défi.
Oui, bah, tout à fait. Alexandre, du coup, met déjà quelque chose, souligne quelque chose, c'est que la question justement de l'apprentissage de la langue donc, est une condition sine qua non. Il y a aussi autre chose, c'est que dans le monde de l'emploi, on voit une certaine discrimination. Ne serait-ce qu'encore, on voit quelque chose qui a été dans l'actualité il y a quelques mois, où on voit que les chauffeurs de taxi de Zaventem on leur a imposé un niveau en fait en néerlandais. Le niveau demandé est B1. Le niveau n'est pas compliqué. J'ai eu l'occasion justement, on a des membres des filles qui sont taximènes à Charleroi et qui m'ont expliqué, ils ont passé leur examen. Niveau à l'oral, ils ont niveau B2, très bien. Sauf que l'écrit, ça se travaille. Ça, si on ne le touche pas continuellement dans l'apprentissage des langues, ça se perd. Malheureusement, elle a eu un niveau A2 et du coup, son niveau B1 n'est pas acquis et elle risque justement de perdre son travail. Donc, quand on sait en fait que les taximens, le pourcentage de clients néerlandophones est environ de 5%, la moitié est anglophone et le reste est francophone, on voit vraiment en fait, qu'il y a une sorte de discrimination, pas à l'embauche, mais justement dans les conditions de travail ou également qu'on demande que dans le Brabant flamand, qu'il y ait au moins dans chaque entreprise ou dans chaque petit commerce ou restaurant, au moins une personne qui parle néerlandais pour question des mesures de sécurité. Je pense que les mesures de sécurité sont assez visibles et assez explicites que de devoir continuer à imposer au moins une personne d'origine néerlandophone. pense que là, on y voit également une discrimination.
Nicole Roland et maire, vous souhaitiez réagir aux mesures de soutien aux demandeurs d'emploi.
Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, pour retrouver un emploi, pour de jeunes parents, il faut généralement une place en crèche. Et c'est un secteur qui a été, qui est en crise au niveau européen, mais qui a été particulièrement en crise au niveau flamand. Il y a eu plusieurs cas de maltraitance en milieu d'accueil. Ils ont donc été amenés à resserrer les mesures de qualité qu'ils imposent au secteur. Et donc, c'est vrai que les dossiers doivent bien sûr être introduits en néerlandais. Mais on rencontre aussi une grande pénurie de personnel pour les milieux d'accueil. Et donc, je pense que c'est vraiment très important que des francophones puissent également exercer leurs fonctions dans des milieux d'accueil en Brabant flamand. Je voudrais aussi insister sur le fait que pour les enfants, le multilinguisme est un énorme avantage. Et les jeunes enfants qui ont la chance d'apprendre le néerlandais dès la crèche, je considère que c'est vraiment un atout. Ça donne une ouverture d'esprit. Et donc, moi, à titre personnel, je suis vraiment aussi très favorable au multilinguisme qu'on peut développer autour de Bruxelles et qui est aussi un modèle pour Bruxelles, je trouve.
C'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien, évidemment, puisque vous dirigez l'ONE.
Je ne la dirige pas, mais j'occupe un poste de direction à l'ONE, oui, effectivement.
Voilà. Quelle est la proposition, alors, d'Union des francophones pour soutenir davantage de places dans les crèches pour les enfants des francophones qui habitent en périphérie bruxelloise ?
Permettre le multilinguisme, défendre des projets multilingues dès le plus jeune âge.
Maxime Timmermans, défi.
Je pense qu'il est également un point qui est à mettre en avant, c'est que le multilinguisme, est une, je pense qu'en tout cas, je suis d'accord là-dessus avec Nicole, sur le fait que c'est un atout. Il y a également un autre point, c'est qu'en fait, si les gérants dans les communes à facilité ne sont pas néerlandophones et sont francophones, elles sont souvent menacées en fait, de fermeture. On rencontre tous les mois, tous les deux semaines, des gens, des puéricultrices qui nous expliquent fait, je suis continuellement harcelé par Kinte Cuisine, justement par le fait que je suis francophone, par le fait que dans mes collaborateurs, certains ne connaissent pas assez bien le néerlandais, ou le fait que on n'a pas des textes, on n'a pas des livres en néerlandais. Mais il y a une question également, c'est que le fait que si l'ensemble des enfants sont francophones et que la volonté des parents n'est pas de les inscrire dans une crèche multilingue, il faut également respecter l'envie des parents. Il y a encore l'année passée, 3 crèches ont fermé à Wemel, 2 crèches sur Kreinem, il y en a une qui va fermer à la fin de l'année à Rode-Saint-Genèse. Elle a quand même été auditionnée pour une fermeture plus tôt, alors qu'elle a déjà annoncé sa fermeture à la fin de l'année, parce que ça fait depuis 2011 qu'elle est continuellement, toutes les années, elle reçoit une lettre de Kinte Cuisine justement pour menacer de la fermeture. Elle reçoit justement des personnes qui viennent contrôler, qui ne rentrent même pas dans les salles de jeu, qui restent juste dans l'entrée, qui regardent un peu à droite à gauche, qui restent 5-10 minutes, et puis après qui repartent. Et donc ces personnes-là, ces crèches-là reçoivent alors un rapport en disant que les questions linguistiques ne sont pas respectées, mais ils regardent même plus le bien-être en fait de l'enfant. Je pense que dans les questions des crèches, les crèches francophones en commune de facilité, la linguistique prime sur le bien-être de l'enfant. Et c'est l'inverse qu'on doit remettre en place.
Alexandre Delcommune, les engagés, je vois que vous souhaitez réagir sur ce sujet.
Oui, je pense qu'une des pistes, c'est de fait le développement du multilinguisme dans les crèches, de collaborer peut-être avec la région flamande et de faire en sorte que les dispositions de la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur le respect des minorités linguistiques soient respectées.
Vous écoutez Place Publique, on s'intéresse ce soir aux droits des francophones en périphérie bruxelloise. Une question, un avis, une réaction, vous nous contactez par SMS au 0400 88 106 800, 0400 88 106 800. On se retrouve juste après Kenji et Soul King.
Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabelle.
19h32, merci de nous rejoindre sur Arabelle dans Place Publique. Ce soir, nous parlons des droits des francophones dans les communes de la périphérie bruxelloise. Quels sont les enjeux pour les francophones qui y habitent à la veille de ces élections du 9 juin prochain? Parlons par exemple des écoles francophones de la périphérie bruxelloise. Alexandre Delcommune, les engagés, ces écoles sont menacées?
Oui, tout à fait. Je pense que si donc les partis nationalistes flamands et l'extrême droite obtiennent plus de 2/3 des voix à la Chambre, ils pourraient, et ils vont, d'ailleurs c'est dans leur programme, exiger la suppression des facilités pour les francophones, ce qui inclut notamment l'enseignement du français, mais également l'enseignement des différentes matières en français. Donc il y a un risque que l'enseignement francophone soit supprimé dans les communes à facilité.
Roberto Galluccio, PS ?
Oui, c'est un problème majeur, évidemment, puisque les 150 000 francophones de périphérie n'ont pas tous, malheureusement, la possibilité de mettre leur enfant dans une école francophone. C'est vraiment limité aussi, commune à facilité. Et en plus, dans ces communes-là, le ministre de l'Enseignement a toujours eu la volonté de vouloir réduire très fortement l'influence francophone, donc de la communauté française, des ministres francophones, qui ont une compétence en matière pédagogique sur ces établissements, puisque l'objectif, c'est quand même, une fois que l'enfant sort de 6e primaire, c'est d'aller continuer sa scolarité dans l'enseignement secondaire sur le territoire de Bruxelles ou en région wallonne, peu importe, mais donc de continuer son enseignement en tout cas, et donc de continuer dans le principe même de ce qu'il a pu apprendre dans l'enseignement primaire dans les communes à facilité. Alors il y a des éléments évidemment qui risquent de connaître d'énormes difficultés dans le futur, puisque j'ai parlé évidemment des rythmes scolaires, mais il y a également par exemple la réflexion qui se mène actuellement sur le tronc commun, où l'objectif c'est de commencer sa scolarité dès la 5e primaire et de la terminer au bout de la 3e secondaire. Donc là il faut une continuité dans le projet pédagogique, et dans la mesure où les Flamands veulent avoir une maîtrise de cet enseignement fondamental, on risque d'avoir une coupure qui malheureusement ne permettra pas cette continuité. C'est un élément important parce que jusqu'à présent on a connu pour les écoles francophones de périphérie des énorme difficulté de pouvoir assimiler le décret inscription. Il faut savoir que dans certaines parties de Bruxelles et dans l'enseignement secondaire, les enfants issus des écoles primaires sont les derniers qui peuvent être inscrits, tout simplement parce qu'ils sont en liste d'attente parmi les périodes les plus longues, hein, et ça peut aller jusqu'à la fin du mois de septembre, alors que l'obligation scolaire commence bien maintenant vers la fin du mois d'août. Donc là, on a véritablement confronté à un problème, et si on isole encore plus cet enseignement francophone, on va évidemment le mettre en difficulté. Il faut savoir que la population de ces écoles, de ces 8 écoles francophones des 6 communes à facilité, est une population qui est en croissance. Elle est en croissance parce que, d'abord, le public francophone commence à s'étendre également dans les communes à facilité, tout simplement parce qu'il y a un transfert de population de Bruxelles dans ces communes à facilité, mais leurs droits sont de plus en plus bafoués. Et l'exemple caractéristique, c'est celui évidemment des programmes utilisés dans l'enseignement fondamental. Dans la mesure où ils sont en lien avec la communauté française, le ministre Ben Wertz voulait absolument casser cette logique-là en imposant un contrôle qui se fasse par la communauté flamande. Et là, les francophones ont obtenu gain de cause parce qu'il y a eu une réaction très, très musclée de la part du Parlement de la communauté française, et donc on a pu préserver en tout cas ses acquis. Mais donc rien n'est vraiment de façon linéaire acquise, il faut chaque fois rappeler les droits des francophones et donc chaque fois mettre en évidence que les francophones qui habitent là ont la possibilité aussi de pouvoir défendre, je dirais, leur culture. Et c'est un élément aussi important. Il faut savoir que dans les communes à facilité, mais aussi ailleurs, la culture francophone n'existe pas. N'existe pas. Il y a des centres culturels qui sont financés par la communauté flamande. Eh bien, on exclut en fait tout artiste francophone dans ces centres. Et même si on pouvait trouver un accord pour qu'il y ait un artiste francophone qui intervienne dans un centre culturel, il se fait évidemment stigmatiser totalement par un certain public néerlandophone. On a connu l'expérience à Wemel, par exemple, donc, et ça se pratique un peu partout ailleurs.
Maxime Timmerman, défi. Par ailleurs, les différentes écoles francophones de Bruxelles, cette fois-ci, ne pourraient pas absorber tous ces étudiants francophones de la périphérie si les écoles francophones de la périphérie venaient à fermer.
Tout à fait. Tout à fait. Non, en fait, comme Roberto l'a dit, en fait, la population de notre commune à facilité augmente. Donc, c'est-à-dire que les étudiants dans ces écoles-là augmentent également. Donc là, on rencontre déjà un premier problème, c'est que si les communes à facilité disparaissent, s'il y a un deux tiers vote de vote via le Vlaams Belang et la NVA, Oui, il y a ce problème-là de où est-ce que ces étudiants vont aller. Il y a également un autre problème où les étudiants, ces écoles-là, risquent également de fermer, en tout cas de changer de programme. C'est dû justement à ce manque d'harmonisation dans les rythmes scolaires. On voit maintenant que le rythme scolaire néerlandophone finit les cours une semaine avant les écoles francophones, sauf que du coup, vu que les écoles francophones suivent justement le programme francophone, mais suivent le calendrier néerlandophone, et ben en fait, les étudiants qui sont en dernière année de primaire passent le CEB, mais du coup, ils passent le CEB le dernier jour de cours, contrairement aux écoles des écoles francophones de Bruxelles et des Wallonies, où ils le passent le dernier jour de l'avant-dernière semaine. Qu'est-ce qui se passe? Ben du coup, les étudiants passent leur dernier jour de cours à passer cet examen. Les professeurs continuent du coup encore à corriger, et ben certaines écoles veulent du coup des communes à facilité ne veulent pas donner alors le CEB et font passer alors un examen propre à leurs écoles et leur donnent du coup un CEB qui est donné par la région flamande. Là, le problème, c'est que si nous continuons dans cette voie-là, si nous n'harmonisons pas les rythmes scolaires, la Flandre risque de demander que, écoutez, vu qu'on vous donne un diplôme néerlandophone, nous allons maintenant commencer à exiger que vous suivez le programme néerlandophone. Donc, l'harmonisation des rythmes scolaires va également dans le sens de la préservation des écoles des communes à facilité.
Roberto Galluccio, PS.
Oui, je voudrais ajouter encore un élément qui me paraît quand même important. On parlait de l'aspect pédagogique des établissements francophones des 6 communes à facilité. Eh bien, il faut savoir que les programmes sont évidemment entièrement encadré, soit du côté francophone, mais aussi du côté néerlandophone. On impose, dès la troisième primaire, 4 heures de néerlandais. Eh bien, le ministre Woerth voulait entamer une enquête de qualité préalable auprès de ces établissements scolaires pour voir si la connaissance du néerlandais était suffisante pour que l'on puisse, évidemment, pour continuer à travailler. Et ça allait tellement loin que, actuellement, ces écoles bénéficient de ce qu'on appelle une dérogation pour échapper à ce contrôle du côté flamand, pour pouvoir s'intégrer plus facilement dans l'enseignement francophone en région bruxelloise. Et donc, l'objectif de cette enquête, c'était véritablement de supprimer les dérogations.
30 secondes, Nicole Roland. Par ailleurs, si ces écoles francophones de la périphérie bruxelloise venaient à fermer, ce serait aussi dramatique pour l'emploi des personnes francophones qui travaillent en périphérie bruxelloise. Et ces personnes peuvent venir ou de Bruxelles ou de la périphérie bruxelloise.
Tout à fait. Maintenant, ce débat ici est relativement technique, mais je voudrais vraiment souligner la qualité du débat et la complémentarité des différents membres de la liste UF. C'est un sujet que personnellement je connais moins, mais vous voyez qu'on a quand même vraiment intérêt à travailler ensemble et à rappeler vraiment aux électeurs qu'il est possible de donner leur voix francophone au parti de leur choix. Il y a même des indépendants également sur la liste, plutôt que d'opter pour voter à la région flamande pour les partis traditionnels flamands.
Maxime Timmerman, Défi, dernière réaction. J'ai vu que vous souhaitiez réagir à ce qui se disait sur cette problématique.
Je voulais justement réagir par rapport à ce que Roberto vient d'apprendre, ce qui est assez ironique venant de la part de Ben West de vouloir exiger de regarder le niveau du néerlandais, sachant qu'en fait, les derniers chiffres qui ont été sur l'éducation en Flandre, on voit que le niveau du néerlandais a également baissé dans les écoles flamandes. Donc venir exiger de regarder, est-ce que le niveau du néerlandais est assez bon chez vous, quand on sait que le niveau du néerlandais est en baisse justement en Flandre, c'est un peu à se poser la question de regarder d'abord chez vous avant de commencer à nous assurer que nous, on donne bien cours aussi.
On se quitte quelques secondes et Place Publique revient dans un instant. À tout de suite.
19h-20h, Place Publique sur Arabelle.
Quels sont les enjeux pour les francophones de la périphérie bruxelloise à la veille de ces élections du 9 juin? C'est le sujet de Place Publique. Ce soir, une problématique importante en périphérie bruxelloise, c'est la problématique de la mobilité. Vous le constatez probablement si vous nous écoutez en voiture ce soir pour rentrer chez vous ou pour quitter la périphérie et aller travailler à Bruxelles si vous vous apprêtez à prendre votre service. Nicole Roland, MR, c'est une problématique que vous constatez au quotidien, mais quelles sont concrètement les propositions ou les changements que vous souhaitez?
Ok, je crois qu'on en aura plusieurs, mais en tout cas, moi j'habite près de la gare de Rhodes-Saint-Genèse, donc je prends régulièrement le train plutôt que la voiture, c'est très pratique. Par contre, j'ai repris un abonnement au Théâtre des Galeries, mais je ne sais pas y aller le soir, le dernier train est à 10h30, je ne suis pas sortie du théâtre, donc je vais l'après-midi. Voilà, ça c'est quand même des choses, bus et transports en commun, en augmenter la fréquence et permettre à horaires décalés comme ça existe dans certains pays.
Maxime Timmerman, Défi, vous souhaitez augmenter le nombre de trains et le nombre de bus. Pourquoi est-ce que ça n'est pas encore le cas? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de transports en périphérie bruxelloise? Et ça ne concerne pas uniquement les francophones.
Non, évidemment, c'est justement ça où je suis très heureux de notre liste, c'est qu'on apporte des points qui concernent les intérêts de toute la périphérie bruxelloise et tous les habitants. Pourquoi? Parce que justement, je pense qu'il y a une certaine volonté de la part de la région flamande de minimiser le transport entre la périphérie et Bruxelles. Ils agissent réellement comme si Bruxelles n'existait pas, mais du coup, la périphérie en paye un peu les pots cassés, ne serait-ce que le nombre 11, c'est le nombre de radars tronçons que Grimbergen a intégré sur l'année 2023. Ça montre le nombre de personnes qui justement sortent du ring, passent par nos petites roues, par les routes résidentielles, par les axes justement en fait de la périphérie bruxelloise. Je pense qu'il est justement important de pouvoir augmenter et faciliter l'accès à Bruxelles, que ce soit même dans l'intérêt de bruxellois également, hein, parce que justement si on réduit l'accès, si on réduit le trafic qui va de l'extérieur de Bruxelles vers l'intérieur, ça désengorge Bruxelles également en interne, mais justement on pourra justement faciliter notre transport vers Bruxelles, et où Nicole pourra justement aller au théâtre le soir. Donc augmenter le nombre de bus et le nombre de trains en général, mais également pouvoir assurer des transports la nuit où on pourra, comme la jeunesse qui sort beaucoup sur Bruxelles, on pourra revenir en sécurité chez nous, on n'aura plus à s'inquiéter justement de pouvoir, comment est-ce qu'on va rentrer, et donc voilà.
À l'avantage des francophones et à l'avantage des néerlandophones aussi, évidemment. Roberto Galluccio, PS.
Oui, en matière évidemment de mobilité, j'aurais deux choses à dire. La première, c'est que quand, il y a quelques années de cela, les néerlandophones, les flamands de périphérie, voulaient absolument isoler Bruxelles, ils ont créé ce qu'on appelle le Grondgordel. Autrement dit, il fallait créer une forme d'étranglement de la région bruxelloise pour empêcher effectivement que les mobilités se fassent de façon aisée entre Bruxelles et l'extérieur, et le contraire. Et alors, le deuxième élément, c'est évidemment dans l'esprit de mobilité qui existe en Flandre, où on veut augmenter la capacité, par exemple, du ring autour de Bruxelles. On a déjà réduit la vitesse à 100 km/h tout autour pour justement réguler beaucoup plus cette circulation. Et alors, on a voulu imposer, du côté de Wemel, un élargissement du ring, comme ça, à l'insu du plein gré de tous les habitants communaux, que ce soit du côté de Bruxelles ou du côté flamand, parce que ça arrangeait la région flamande, parce que ça permettait une plus grande fluidité pour atteindre principalement l'autoroute d'Anvers, qui est engorgée, je dirais, toute la journée. Et donc l'objectif, c'est véritablement, d'une certaine façon, de pénaliser, je dirais, les nafteurs qui viennent de l'extérieur pour aller travailler sur Bruxelles en créant cette espèce de no man's land autour de Bruxelles. Et la deuxième chose, c'est de créer cette fluidité sur le ring, principalement parce que c'est là où la difficulté de circulation est la plus forte, pour justement permettre une plus grande aisance pour circuler vers Anvers.
Aujourd'hui, cette entrée et cette sortie d'autoroute est menacée au désavantage probable des Wemellois, mais aussi des Lakenois.
Oui, tout à fait, des Lakenois, des Gétois. En fait, on a travaillé comme ça en dépit du bon sens, sans aucune concertation. Et je me souviens que lors de la sixième réforme de l'État, on avait parlé d'une communauté métropolitaine qui devait justement permettre un dialogue plus fort entre Bruxelles et sa périphérie. Mais ça n'existe toujours pas. Et donc, cette concertation n'existe pas.
Alexandre Delcommune, les engagés, comment ça se fait qu'il y a si peu de bus en périphérie bruxelloise? Ça veut dire que les néerlandophones qui y habitent ne prennent pas le bus?
Non, je pense que c'est un enjeu stratégique pour Broad de Laine. Et je pense qu'il y a moins de possibilités, je veux dire, moins de routes qui sont prévues par et que c'est devenu un si vous voulez moins important pour la région flamande que de desservir ces routes là et je pense que une partie des solutions peut consister à créer une collaboration entre justement les TEC et De Laine pour pouvoir optimiser la desserte des routes et pouvoir justement désengorger donc ces embouteillages comme pour des gens qui travaillent à Bruxelles et qui vivent en périphérie.
Question posée évidemment à vous quatre. Est-ce que vous seriez favorable à ce que des transports de la STIB ou du TEC puissent circuler aussi en périphérie bruxelloise? Maxime Timmerman?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on est évidemment favorable. Je pense que même l'élargissement en fait, du réseau de métro, de tram, jusque dans les communes à facilité, pourra permettre en fait, justement cette amélioration de la mobilité. Enfin, je pense que même Roberto parlait également de coopérativité de la région métropolitaine, je pense que si justement on avait cet aspect en fait, de la coopérativité sur la question de la mobilité, en fait, on verrait très bien que le problème sur le carrefour Léonard n'aurait sûrement pas existé, parce que je pense que ce ne sont des auditeurs d'Other Game qui doivent, à mon avis, bien subir les problèmes de mobilité. Tous ceux justement, qui sont dans la voiture maintenant, qui doivent rentrer, qui doivent subir la mauvaise gestion de la coopérativité entre Bruxelles et, Bruxelles et la région flamande, même s'ils jouent un peu au ping-pong pour l'instant pour savoir qui a été prévenu et qui pas. Au final, le problème, c'est qui en subit les conséquences, c'est l'habitant.
Donc il faut plus de trams en périphérie bruxelloise, des trams de Delaine ou des trams de la STIP qui vont jusqu'en périphérie, Nicole Roland?
Mais effectivement, il y a maintenant une zone Grand Bruxelles qui existe au niveau de la STIP, donc je pense effectivement que dans notre pays compliqué, on doit favoriser les partenariats entre régions, hein.
Et le métro, il ne va jamais arriver jusqu'en périphérie bruxelloise.
C'est impayable, hein, ça, actuellement.
À part Kreinem.
C'est très coûteux. Hein.
Roberto Gagliuccio.
Oui, je dirais que c'est un problème en fait, parce qu'on voit apparaître énormément de lignes de Delaine qui vont par exemple jusqu'à la gare du Nord et d'autres endroits sur Bruxelles. Donc il y a une incursion, je dirais, de Delaine au centre même de la ville de Bruxelles. Par contre, le contraire n'est pas possible. Alors qu'il y a quand même une aberration. Il faut savoir que tout ce qu'il y a autour de Bruxelles, c'est l'Interland de Bruxelles. Que ce soit les zones de travail ou que ce soit les zones d'habitat, on est quand même dans une forme d'excroissance de la ville. Alors, on est bien la seule capitale européenne d'un poids de ce type-là, qui est étranglée au niveau même des transports en commun, parce qu'on a des logiques qui sont territoriales et principalement de type régional, alors qu'on parlait tout à l'heure d'assurer des plus grandes facilités de travail et des conditions de travail idéales, et là, on bloque un petit peu le transfert possible même de travailleurs bruxellois qui sont malheureusement sans travail et qui pourraient très bien répondre à l'attente de la région flamande de voir le taux d'emploi dans sa région atteindre les 80% comme c'était défini, je dirais, au niveau fédéral.
Maxime Timmerman, défi 30 secondes.
Et donc c'est pour ça que justement UF s'est mis en place de pouvoir apporter mobilité sur trois points. Efficacité, sécurité et accessibilité. Accessibilité, que ce soit par la création de parcs de délestage où les gens peuvent venir justement aux gares, laisser leur voiture et prendre le train. Efficacité, en augmentant le nombre de trains, que ce soit même de jour et surtout de nuit. Et puis également la question de la sécurité, que ce soit pour les travailleurs des transports en commun et pour les usagers.
Dans un instant, juste après Angèle, nous parlerons de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite en périphérie bruxelloise. Nous évoquerons aussi la problématique des nuisances sonores et environnementales causées par l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, mieux connu sous le nom de Zaventem. A tout de suite. Angèle évoque ses démons ce soir dans Place Publique sur Arabelle.
Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabelle.
Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans Place Publique. Nous évoquons ce soir les enjeux pour les francophones de la périphérie bruxelloise. Nicole Roland est maire. Vous souhaitez que les francophones, mais aussi évidemment les néerlandophones de la périphérie bruxelloise, puissent continuer leur vie et puissent vieillir là où ils habitent dans de bonnes conditions.
Effectivement, vieillir agréablement, ça implique aussi qu'avec l'âge, les besoins changent. L'accès à la culture francophone reste bien sûr quelque chose de très important quand on a plus de loisirs, mais aussi des problèmes beaucoup plus concrets d'aide à domicile qu'on pourrait recevoir en français, les problèmes de mobilité également attirent beaucoup plus mon attention que pour les personnes les plus jeunes, quoique la mobilité, c'est les trottoirs, mais c'est aussi l'accès à des mamans qui poussent une voiture d'enfant.
Roberto Gagliuccio, PS, vous êtes aussi sensible à cette problématique?
Oui, bien sûr. En fait, que ce soit pour l'accueil du troisième âge, et donc éviter évidemment de les cantonner trop rapidement dans des maisons de repos, c'est de trouver évidemment des formules qui permettent de maintenir les personnes âgées chez elles et de vivre donc en harmonie par rapport à leur environnement. Il y a des expériences intéressantes qui sont malheureusement insuffisantes quand on analyse un petit peu la situation des communes environnantes. On peut signaler que les communes flamandes sont en général des communes avec des niveaux de revenus des habitants qui sont élevés, mais en même temps, au niveau des maisons de repos, bon, il y a énormément de maisons privées, et alors quand elles sont communales ou publiques, parce qu'elles sont gérées par le CPAS, il y a très peu d'initiatives où la personne peut vivre en harmonie. Je prends un exemple sur Ouémel. Nous avons la chance d'avoir une résidence. C'est une résidence qui comporte évidemment un certain nombre de services qui avaient été créés du temps où il y avait à la tête de la commune un bourgmestre francophone. Malheureusement, entre-temps, les données ont changé sur Ouémel, et donc on voit que cet accueil s'est un petit peu, réduit très fortement, et donc la situation pour ces personnes-là est évidemment moins intéressante que précédemment. Si on parle aussi de la culture, c'est vrai que les personnes âgées n'ont pas tellement la possibilité de vivre leur culture francophone dans leur environnement, parce qu'il n'y a rien de concret qui existe. J'ai parlé du centre culturel qui était le seul lieu financé par la communauté flamande. Il est bien entendu que s'ils doivent se déplacer, c'est compliqué. Et alors, au niveau des trottoirs et des, effectivement, on a établi énormément de pistes cyclables, en fait, à peu près dans toutes les communes flamandes, en réduisant très fortement la circulation automobile, et en même temps aussi en réduisant la vitesse à 20 ou 30 km à l'heure. Mais ce sont des décisions qui ont été prises sans concertation, qui ont été prises d'autorité, parce qu'on considère que ça va dans le sens favorable des habitants de la commune, alors qu'il y a une opposition de plus en plus marquée, que ce soit à Ouémel, mais je crois dans d'autres communes aussi, par rapport à toutes ces décisions qui ont été prises à l'emporte-pièce par les dirigeants, principalement flamands, qui sont en phase avec la région flamande, et qui, en fait, freinent très fortement, je dirais, l'épanouissement du public francophone.
Maxime Timmerman, Union des francophones souhaite aussi lutter contre les nuisances sonores et environnementales qui sont occasionnées par l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National.
Oui, tout à fait. On peut rencontrer que depuis quelques années, la question de la nuisance sonore a augmenté. On voit très bien que les lignes justement d'atterrissage ont changé. Elles passent sur des zones qui n'étaient pas survolées avant. On voit quand même une certaine révolte de la part de nos concitoyens par rapport à cette question-là, ne serait-ce que pour un point important, au point de vue de l'immobilier, les zones qui avant n'étaient pas survolées le sont maintenant, et ça va exprimer une baisse du prix de l'immobilier. Parce qu'on entend souvent dans les arguments de « mais bon, vous avez décidé de vivre là-bas, vous avez décidé de vivre dans une zone où il y a un aéroport, assumez-en les conséquences ». Je me dis « mais si des personnes ont mis justement un prix plus élevé pour pouvoir habiter dans une zone qui n'était pas survolée, mais pour que 10 ans plus tard, et bien en fait ils sont survolés à 5, 10, 15 fois par jour, même parfois encore la nuit jusque très tard. J'habite personnellement Bercelles, où en fait c'est à ce moment-là qu'il commence à descendre. J'ai des collègues où je mène des événements parfois quand je vais sur Kreinem. Je comprends réellement la détresse de certains habitants.
Merci à tous les quatre. C'était Place Publique, une émission à retrouver sur arabelle.fm et sur les plateformes habituelles. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à tous mes invités. Rendez-vous mercredi prochain, 19h. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.